Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 30 avril 2026. Aujourd'hui, on va prendre des nouvelles de la flottille. La Global Sumud Flotilla qui a commencé à se faire arraisonner par des navires israéliens alors qu'ils n'étaient qu'à 900 km des côtes. On va parler aussi d'une manifestation qui a eu lieu à Carcassonne contre l'extrême droite, avec notamment la jeunesse présente au rendez-vous. On va parler réchauffement climatique avec le nouveau rapport de l'observatoire européen Copernicus qui s'intéresse notamment à la situation océanique. D'autres news comme ça, de justement la désinformation autour du réchauffement climatique, d'un rassemblement, d'un sommet de Santa Marta où on y parle justement de décarbonation de l'économie, et on terminera avec des nouvelles du fabuleux monde de l'intelligence artificielle. Direction donc tout d'abord la mer Méditerranée, où l'armée israélienne Tsahal a commencé à intercepter les premiers navires de cette flottille qui était en route vers Gaza, très loin des côtes israéliennes. L'opération vise une flottille qui est composée de plus de 100 bateaux, environ 1000 participants, qui partaient notamment de Turquie, d'Espagne ou d'Italie, dont certains d'ailleurs s'étaient préparés à Marseille. C'est donc la marine israélienne qui a intercepté dans la nuit environ 175 militants de cette flottille pour Gaza, qui était partie en avril des côtes européennes. Le reste de la flottille, lui, poursuit sa route vers Israël. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères israélien. À l'heure où nous publions ce communiqué, écrit la flottille, donc il était 6h30 ce matin, au moins 22 des 58 bateaux ont été pris d'assaut par les forces israéliennes en totale violation du droit international. C'était le communiqué donc de la Global Sumud qui alertait sur le début d'opérations menées par les forces marines israéliennes. Selon cette organisation, toujours des ressortissants français figurent parmi les personnes arrêtées. Dans la nuit, elle avait aussi affirmé que ces bateaux avaient été illégalement encerclés par des navires israéliens et que le contact avec 11 de ces navires avait été perdu puisque l'armée possède des brouilleurs qui rendent impossible toute communication entre les bateaux. Ces bateaux ont été abordés par des vedettes militaires qui se sont identifiées comme étant d'Israël, expliquait-il sur le réseau social X. Et les occupants ont pointé des lasers et des armes d'assaut. Les assaillants ont pointé des lasers et des armes d'assaut semi-automatiques, et ordonner donc aux participants de se rassembler à l'avant des bateaux et de se mettre à quatre pattes avant d'être finalement donc exfiltrés de leurs embarcations pour être montés à bord donc des bateaux rapides, des vedettes rapides de l'armée israélienne. Cette flottille a été attaquée donc dans les eaux internationales, au large de la Grèce. On est donc à plus de 900 km des côtes de Gaza. Autant vous dire qu'ils étaient loin de commencer à pénétrer dans les eaux qui posent problème à Israël. Certaines personnes ont donc été enlevées et d'autres ont été lassées sur des bateaux endommagés. Expliqué par exemple dans les réactions politiques le député insoumis Emmanuel Bompard. Donc pour lui, il s'agit d'actes de piraterie. Et du côté de la Global Sumud, on explique aussi que les bateaux ont été laissés saboter, donc avec des bateaux endommagés, donc sans moteur, alors qu'une grosse tempête, justement, s'annonce sur la mer dans cette région-là. La bande de Gaza, on le rappelle, est gouvernée par le mouvement islamiste palestinien Hamas. Rappelle l'AFP, est soumise à un blocus israélien depuis 2007. La guerre dévastatrice déclenchée par l'attaque sans précédent du 7 octobre a engendré de graves pénuries de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant. Et c'est donc pour pallier cette grosse crise humanitaire que ces bateaux, et aussi symboliquement, voulaient donc aborder les côtes de Gaza. Certains sont donc toujours en mer, je vous le disais. Voilà, l'armée israélienne contrôle depuis le cessez-le-feu précaire de mois d'octobre plus de la moitié de ce petit territoire palestinien côtier où l'accès de l'aide humanitaire reste encore largement restreint. Et puisqu'on parle d'accès à Gaza, ça fait écho avec ce communiqué de la presse, de l'Association de la presse internationale qui vient d'être publié à l'occasion de la semaine de la presse, une lettre ouverte aux autorités israéliennes. Il est écrit qu'après 930 jours de blocage, les directeurs de plus de 30 médias, dont Libération, rappellent que se rendre sur le terrain, donc à Gaza, permettrait de parler directement aux civils et de rapporter ce qu'ils vivent. Ils rappellent aussi qu'ils veulent pouvoir rentrer à Gaza. Ils rappellent que dans d'autres conflits récents, même là où le danger est constant, on parle de l'Ukraine, de l'Irak ou de la Syrie, les journalistes étrangers ont tout de même réussi à travailler de manière relativement indépendante. Or, le blocus sur Gaza fait peser la responsabilité de l'information et de la couverture de cette guerre dévastatrice et de ses conséquences uniquement sur les journalistes gazaouis. Or, comme tous les Palestiniens à Gaza, ils vivent et travaillent dans des conditions extrêmes, confrontés à la faim, au déplacement forcé, à la perte de leurs proches, et ils ont également fait face à des restrictions continues, à des attaques meurtrières et ciblées. Leur protection devrait donc être sans équivoque et ils ne devraient pas avoir à porter ce fardeau de la responsabilité donc, de faire du journalisme. À l'occasion de la semaine de la liberté de la presse, ces journalistes donc rappellent l'appel. Israël doit immédiatement lever l'interdiction. La liberté de la presse est une valeur fondamentale dans toute société ouverte. Et il termine cette lettre en disant « Laissez-nous entrer à Gaza ». On part à Carcassonne maintenant, où la jeunesse a manifesté contre l'extrême droite, récemment élue au pouvoir, et ce malgré les intimidations donc du maire, Rassemblement National. Une tentative d'intimidation donc de la part de celui-ci, mais qui a visiblement raté, puisqu'à l'appel du collectif d'étudiants et de lycéens « Nous, Carcassonne », plus de 300 personnes, ce qui est pas mal pour cette petite ville, ont défilé hier dans le centre jusqu'au rempart de la cité médiévale pour manifester donc contre l'extrême droite. La veille, le nouveau maire issu du RN, Christophe Barthès, affirmait d'ailleurs que les associations qui participeraient à cette marche n'auraient plus de subventions à la mairie, voilà, petit centage, et que ce serait avec un effet immédiat. Le 31 mars, donc il y a un mois, l'édile de cette cité de l'Aude s'était également introduit dans un groupe privé sur Instagram, et il y a menacé des lycéens qui prévoyaient donc de manifester. Il avait alors affirmé avoir récupéré tous les pseudos de chaque membre du groupe. Là, on est carrément sur de la menace. Des menaces visiblement vaines au regard de la présence massive hier dans les rues de Carcassonne de ces lycéens, étudiants, mais aussi d'organisations syndicales, associatives ou politiques. Et d'ailleurs, c'est Catherine Vial, une membre de la section carcassonnaise de la Ligue des droits de l'homme, qui témoigne n'avoir jamais vu une telle mobilisation de la jeunesse à Carcassonne. La Ligue des droits de l'homme, qui a déposé une requête devant la justice pour annuler justement l'arrêté anti-mendicité qui avait été signé par Christophe Barthès peu après son élection, il l'avait d'ailleurs fait devant les caméras comme un geste fort et symbolique de son arrivée au pouvoir, eh bien cette requête d'annulation s'est aussi attirée les foudres du nouveau maire qui a retiré à l'association leur subvention annuelle, on parle de 300 euros, mais aussi leur local à Carcassonne. C'est évidemment choquant, mais, dit-elle, on continue le combat et grâce à ce coup de publicité, on a doublé le nombre de nos adhérents en 15 jours. Toutes les générations étaient présentes à ce rassemblement hier dans le cortège et donc, je vous le disais, les syndicats aussi, la CGT qui a prêté main forte pour l'organisation et la FSU, le principal syndicat des enseignants. Quant au nouveau maire, qui doute par exemple de l'origine humaine du réchauffement climatique malgré l'évidence scientifique et qui multiplie les sorties climato-sceptiques dans la presse, eh bien, il est, puisqu'on parle de l'angle écologiste, un danger pour celui-ci. Une de ses premières mesures a donc été de remettre par exemple l'éclairage public toute la nuit et partout. Et ça, on le voit dans de très nombreuses municipalités où la mairie repasse soit au RN, soit à la droite un petit peu dur. L'éclairage public, visiblement, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Or, en plus de coûter plus de 300 000 euros pour Carcassonne, cette mesure n'a pas de sens puisque tout fonctionnait très bien comme ça. Voilà, puisqu'on parle des effets justement des dernières municipales, notamment des villes qui ont basculé RN, eh bien je vous invite à vous procurer le dernier numéro du journal L'Empaillé, hein, qui vient de sortir son numéro de printemps, avec un très beau dossier sur Carnaval, les carnavals en général, et aussi un beau dossier sur l'implantation municipale, on va dire, de l'extrême droite, notamment en Occitanie, et ça fait écho la vie, en tout cas, qu'on connaît ici à la campagne. L'occasion aussi de rappeler que demain, c'est le 1er mai, que de très nombreux rassemblements auront lieu, donc pour célébrer ce qui était à l'origine la fête de la lutte des droits des travailleurs, qui est devenue la fête du travail sous Pétain, et donc des rassemblements, justement, pour rappeler l'opposition à l'extrême droite et rappeler que celle-ci menace beaucoup de conditions de vie de tous les travailleurs et travailleuses. Voilà, je vous invite donc à vous procurer le dernier numéro de L'Empaillé, il y a plein de choses intéressantes dedans. Que j'ai commencé à vous parler du climat, c'est aussi parce que un nouveau rapport de Copernicus est sorti récemment, donc hier, et l'Europe se réchauffe de plus en plus vite, et notamment plus vite que d'autres régions du monde. La situation pourrait même s'aggraver. Ça a été publié par le C3S, le service européen Copernicus sur le changement climatique, conjointement avec l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, qui elle fait partie des Nations Unies. C'est donc un nouveau rapport qui porte sur l'année 2025 et qui rappelle que depuis les années 80, l'Europe s'est réchauffée deux fois plus vite que la moyenne mondiale. La situation pourrait bien s'aggraver encore avec le phénomène El Niño, qui engendre une hausse des températures de surface dans le centre et l'est du Pacifique équatorial, et dont la survenue est probable cette année, et avec d'ailleurs des récurrences de plus en plus fréquentes d'El Niño. Même si, bien sûr, il n'y a pas encore de certitude complète, on parle quand même de météo et de climat, mais statistiquement, en tout cas, il y a des chances qu'il soit de nouveau présent cette année. En tout cas, ce rapport rappelle une fois de plus que les mesures actuelles en faveur du climat ne sont pas à la hauteur de l'ampleur de la crise, loin s'en faut. C'est ce que rappelle, par exemple, l'ONG WWF dans un commentaire qu'elle a fait suite à la publication de ce rapport. Les vagues de chaleur deviennent de plus en plus fréquentes et graves sur au moins 95% du territoire européen, rappelle ce rapport, qu'on aille de la mer Méditerranée jusqu'au cercle arctique, oui parce que l'Europe couvre toutes les latitudes. La région de la Fennoscandie, par exemple, au nord de l'Europe, avec la Finlande, la Suède et la Norvège, a enregistré la plus longue vague de chaleur depuis que les relevés existent cette année, avec 21 jours à 30 degrés ou plus en juillet, ce qui est deux fois plus que le précédent record. L'Europe multiplie donc les records de chaleur, on parle de la Turquie, où la température a dépassé pour la première fois 50 degrés, ou la Grèce, où 85% de la population a été affectée cette année par des températures proches ou au-dessus de 40 degrés. L'ouest de l'Europe, dont on fait partie, a aussi été largement affecté, avec dès le mois de juin l'Espagne, le Portugal, la France et une partie du Royaume-Uni. Au mois d'août, ça a été le Portugal, l'Espagne et la France touchés par ces chaleurs extrêmes aussi. Les glaciers ont enregistré une perte de masse nette en 2025. Par exemple, l'Islande a accusé sa deuxième fonte annuelle la plus importante de son histoire après 2005. Particulièrement scruté aussi en raison de sa vitesse de réchauffement, le Groenland a lui perdu 139 gigatonnes de glace l'an dernier, ce qui a fait augmenter le niveau mondial des mers de 4 mm. Les océans ont aussi souffert avec un record de 86% des régions océaniques qui ont connu au moins un jour d'épisodes de chaleur forte. Alors ces vagues de chaleur, elles ont des conséquences importantes, notamment sur la biodiversité, hein, hormis le confort de nos petites vies en ville ou pas. Et puis c'est notamment en mer, sur les prairies sous-marines de la Méditerranée, que ces températures vont avoir des impacts. Ces prairies sous-marines font office de barrières marines naturelles normalement, et elles sont très sensibles à ces températures élevées. Les superficies qui sont ravagées par des incendies de forêt à terre, ont atteint le chiffre record de plus d'un million d'hectares. À noter, parmi les quelques bonnes nouvelles, si c'en est une, les énergies renouvelables ont représenté pour la troisième année de suite une part supérieure à celle des énergies fossiles concernant la production électrique. Ça représentait 46,4% de la production. La conseillère principale au service climat de la Commission européenne dit « Ce n'est pas assez, nous devons accélérer ». Et pour cette Commission européenne, nous devons nous employer à sortir progressivement des énergies fossiles. Après le mot accélérer, faudrait peut-être aussi le mettre en regard de l'activité économique et industrielle qui, elle, peut-être devrait plutôt ralentir. Ça pourrait résoudre pas mal de problèmes. Quelques solutions, donc bon, sans tout résoudre, il y en aurait, mais visiblement, elles ne sont pas toutes publiables. On vient d'apprendre que le Premier ministre, donc on est en France, a fait dépublier un guide de l'ADEME et de l'Office français de la biodiversité, justement pour parler de transition écologique. C'est un guide qui est normalement destiné à accompagner les élus dans la transition écologique de leur territoire. Ça s'appelle « Demain, mon territoire », ça existe depuis quelques années. Eh bien, la dernière version a disparu du site internet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Je l'ai cherché sur Google et on tombe sur une erreur 404. Visiblement, l'ordre a été donné de le retirer par le cabinet du Premier ministre. Ce document, donc, qui s'appelle « Demain, mon territoire », il a été co-rédigé par l'ADEME et par l'OFB. Il rassemble 23 fiches thématiques pour les représentants, dirigeants des collectivités, et ça leur détaille des leviers d'action à leur disposition pour entamer leur transition écologique à leur niveau. On parle de la question de l'alimentation durable, des questions de mobilité, des énergies renouvelables, la dynamisation des centres-villes, etc. Visiblement, ce document n'aura été en ligne que 48 heures sur le site de l'ADEME avant que Matignon n'ordonne son retrait, et quelques heures seulement sur celui de l'OFB. Alors, pour l'instant, pas de réaction du gouvernement par rapport à cette petite info, mais en tout cas, vous pouvez quand même le consulter par curiosité si vous le voulez, puisqu'il est disponible en PDF sur Internet, notamment dans le journal Reporter, qui a levé cette information, et ils se sont procurés donc le PDF. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller le lire.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
Et on reste dans cette politique anti, on va dire, scientifique, en tout cas dans ce qui en est de sa connaissance du climat. Et on va aux États-Unis où, sous l'administration de Donald Trump, environ 1500 chercheurs de l'EPA, là c'est l'Environmental Protection Agency, donc l'Agence de protection de l'environnement, 1500 chercheurs de ce bureau ont été licenciés, déplacés ou poussés au départ. C'est un décompte qui vient d'être fait par le New York Times, 1500. Hein. Et il en reste visiblement 125 seulement dans cette agence, et ils sont censés décider avant demain, le 1er mai, d'accepter une mutation ou pas, ou bien de quitter l'agence. On parle de biologistes, de chimistes ou encore de toxicologues, dont le travail démontrait fréquemment la nécessité de mettre en place des réglementations plus strictes sur la pollution atmosphérique, sur les produits chimiques toxiques aussi, ou les émissions industrielles. L'EPA donc avait prévenu par exemple des centaines de milliers de maladies et de décès prématurés au fil des années, mais vous en rendez certainement compte, ça va certainement à l'encontre des intérêts justement des industriels qui sont pour la plupart responsables de la production de ces composés toxiques et également de rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, le travail de ces scientifiques a considérablement diminué, voire même a été complètement perdu. Par exemple, un laboratoire de Caroline du Nord qui étudiait l'impact des polluants atmosphériques sur la santé humaine a été carrément fermé. Une autre équipe de toxicologues qui étudiait l'effet de l'exposition chimique sur la reproduction a, elle, été dissoute. Et l'étude du changement climatique sur la santé, comme les effets de la chaleur extrême sur la démence, a également, elle, été abandonnée.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
C'est donc sans surprise et sans les États-Unis que s'est fait le sommet de Santa Marta. On est en Colombie. Est-ce que ce sommet fera figure de tournant dans la lutte pour la sortie des énergies fossiles, qui est, rappelons-le, le secteur qui contribue le plus au réchauffement climatique dans le monde actuel? Le sommet de Santa Marta, c'est une réunion diplomatique internationale qui a eu lieu du 24 au 29 avril et dans laquelle une cinquantaine de pays étaient réunis, dont la France d'ailleurs, des pays qui se disent désireux d'avancer sur le sujet donc, de la réduction et la sortie des fossiles. Et aussi, il y avait présentes des organisations de la société civile. En tout cas, ça n'a pas fait les choux gras de la presse, on en a beaucoup moins parlé que des COP, mais ça a marqué par son caractère inédit. C'était donc 6 jours de rencontres organisées à l'initiative de la Colombie et des Pays-Bas. Et il n'a pas été question, comme bien souvent, de débattre de l'opportunité éventuelle de sortir des hydrocarbures, mais là on a plutôt parlé carrément de la nécessité de mettre en place le processus, et a fortiori donc de réfléchir à des solutions concrètes pour le faire, loin de ces discussions souvent qui ne mènent à rien dans les différentes COP, où toute décision doit être adoptée par consensus par les 195 pays de ces qui participent, et donc où certains peuvent mettre des vétos. Donc n'étaient pas présents les États-Unis, l'Inde, la Chine, la Russie et les pays du Golfe, producteurs de pétrole, ils n'étaient pas invités. Hein. La ministre colombienne de l'Environnement, Irene Vélez Torres, avait affirmé à la mi-avril dans le journal The Guardian que cet événement, justement, n'accepterait ni les boycotteurs, ni les climato-sceptiques à la table des négociations. L'enjeu de ce sommet, dit-elle, n'était pas qu'il y ait de nouveaux engagements, mais de créer un espace permettant d'avoir un dialogue franc sur ce qui nous bloque pour sortir de notre dépendance au pétrole, au gaz et au charbon. Ce type de réunion est pour certains complémentaire des COP et permet donc d'éviter les prises de parole très formatées ou des négociations à la virgule près. Qu'est-ce qu'il en est sorti alors de cette rencontre ? 3 conclusions principales. En tout cas, c'est ce que relate la représentante de l'ONG 350.org. En premier, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient et de la flambée des prix des carburants, le fait que cette sortie des énergies fossiles soit à la fois un impératif climatique, mais aussi économique. Le deuxième consensus pour les participants, la nécessité d'investir massivement dans des énergies renouvelables en réfléchissant à une transition socialement juste et aussi de trouver des moyens de la financer. La question de la taxation des entreprises pétrolières a ainsi été au cœur de ces discussions avant d'exposer le troisième point d'accord, ce qui est de développer davantage la coopération et la solidarité internationale sur cette question. Voilà donc sur la question de la taxation des entreprises pétrolières. Et d'ailleurs en France, si on revient chez nous, jusqu'ici le pouvoir exécutif se refusait justement à taxer les super profits de Total Energy avec un bénéfice net de 5,8 milliards de dollars au premier trimestre 2026. Ce bénéfice a augmenté de 50% en un an dans le contexte de cette guerre au Moyen-Orient. Et ce qui fait peut-être que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a justement un petit peu glissé du bout des lèvres hier, disant à propos de Total que s'il y a des résultats exceptionnels, cela pose la question d'une redistribution. Donc peut-être au moins la possibilité de taxer ces super profits. Et je crois que ça va être utilisé, si on les suit, juste pour réduire un petit peu le coût du carburant à la pompe. Allez, on a parlé pas mal de science et de scientifiques. On continue avec justement les effets de l'IA sur les publications et sur le monde, notamment de l'Internet en général, hein, et des recherches qu'on fait, de ce qui peut s'y trouver ou pas. Des chercheurs ont fait un petit test. Ils ont inventé une fausse maladie pour essayer de piéger l'IA. Le résultat a été plutôt probant. Ça a même été au-delà de leurs espérances. Cette maladie est devenue pour l'IA vraie. C'est une chercheuse qui s'appelle Almira Tunström, qui est chercheuse à l'université de Göteborg, qui a imaginé donc cette maladie qui s'appelle la Bixonymania, une prétendue maladie oculaire et un peu dermatologique qui serait causée par l'exposition excessive à la lumière bleue des écrans, donc une maladie de notre siècle, notamment les paupières qui démangent, les yeux irrités, le contour de l'œil un peu plus sombre après des heures passées devant l'écran. À ce sujet, donc, elle a fait publier deux fausses études académiques en 2024, qu'elle a attribué à un auteur fictif qui s'appelle Laszlo Izgubliznowicz. L'objectif était simple, donc c'était de vérifier si les chatbots, les robots conversationnels comme ChatGPT, Gemini ou Copilot, avaleraient cette désinformation pour ensuite la recracher comme un conseil médical tout à fait légitime. Les chercheurs avaient semé pourtant de nombreux indices pour signaler la supercherie. On aurait dit un article du 1er avril, n'importe quel lecteur humain les aurait normalement repérés. Par exemple, l'université citée, c'est Asteria Horizon University. Il y a des remerciements à l'Académie de Starfleet, donc un petit gros clin d'œil à Star Trek, avec justement l'USS Enterprise qui aurait prêté son laboratoire. Dans carrément des titres, des sous-titres d'articles, il y a écrit « L'article est entièrement inventé », donc c'est écrit noir sur blanc. Et ils ont mis aussi des financements assurés par exemple par un personnage de série télé, qui fait partie des Simpsons, le tout dans le cadre d'un programme porté par l'Université de la Communauté de l'Anneau et de la Triade Galactique. Enfin voilà, ils se sont un petit peu amusés pour mettre plein de pièges, histoire d'être vraiment sûr que ça ne passe pas pour un fake, un faux fake, quoi, enfin un vrai fake. Et bien donc, malgré tous ces signaux d'alarme flagrants, que ça soit Microsoft, Bing, Google Gemini, ChatGPT ou Perplexity, ils ont tous accepté et présenté donc, par la suite la Bixonymania comme une condition médicale réelle, une vraie maladie, en prodiguant même quelques conseils de consultation. C'est tout ça est rapporté dans un article de la revue scientifique britannique Nature. Donc cette expérience a malheureusement parfaitement réussi. Ils ont mordu à l'hameçon. Pire, maintenant, suite à ça, la fausse maladie a commencé à être citée par de vrais chercheurs dans des vraies publications académiques. Et oui, c'est ça la boucle. Puisque ce mécanisme révélé dépasse l'anecdote et interroge sur toute la chaîne de production de la publication scientifique. L'IA, elle, c'est juste le générateur de texte, donc elle aspire tout contenu sans discernement. Et ensuite, les chercheurs vont s'appuyer sur l'IA pour leurs références quand ils écrivent leurs textes, leurs articles. Les comités de lecture laissent visiblement passer des grosses aberrations. Donc c'est tout le cycle de validation scientifique traditionnel qui s'autodétruit. Comme le dit la chercheuse Tunström, c'est inquiétant quand ces affirmations majeures passent dans la littérature sans être remises en question. En effet, si la chaîne de production scientifique, on parle des auteurs, des relecteurs et des éditeurs, ne parvient pas à filtrer une référence bibliographique aussi farfelue, cela réveille des failles du système d'édition scientifique. donc la facilité d'infiltrer une information fausse dans l'écosystème numérique, où elle sera ensuite amplifiée, validée et reprise, notamment par des médecins ou des chercheurs, de cette spécificité dans leurs publications. Cet épisode sonne donc comme un signal d'alarme hein, dans le domaine médical, où la fiabilité de l'information est cruciale quand même, on parle de santé. Eh bien, la diffusion de ces fausses informations, même si elles ne concernent que des docteurs ou des chercheurs, peut entraîner des conséquences graves. Et surtout, ce que l'étude ne dit pas, à travers cet exemple évidemment, c'est combien d'autres faits qui ont été inventés circulent déjà dans nos bases de connaissances sans qu'on s'en rende compte. Toute cette histoire souligne donc une chose très concrète, ce n'est pas seulement l'intelligence artificielle qui est en cause, mais une partie de l'écosystème de production et de diffusion des connaissances, qu'elles soient médicales ou scientifiques, et on peut parler aussi de la politique, lorsque les frontières entre information et contenu non vérifiés sont aussi poreuses. Donc voilà, on le rappelle, à l'ère des IA génératives et des publications scientifiques en ligne, sans parler des photos et des vidéos, la lecture intégrale des articles, la vérification des références bibliographiques et la consultation des articles, eh bien, quand on a le moindre doute, ce ne sont pas des réflexes archaïques et inutiles, bien au contraire, ce sont des mesures d'hygiène intellectuelle élémentaires et indispensables.
C'était vraiment très intéressant.
Allez, chers amis, c'est là-dessus que je vous laisse. N'oubliez pas d'aller vérifier toutes les infos que je vous ai données avant. Ouais, ça fait du gros boulot quand même, hein. Beaucoup de responsabilités pour nous tous et toutes. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien et bon 1er mai à tous les travailleurs, travailleuses, chômeurs, chômeuses et autres collectifs en lutte.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.